Je vous présente ce travail sur la communication de la douleur dans la visite médicale en essayant de voir avec vous un peu quels sont les apports qu'une perspective interactionnelle et multimodale peut donner à la problématique de la mesuration, de la mesure et de l'évaluation de la douleur en contexte médical. Donc, alors, les objectifs, il y a un objectif général de montrer comment le travail interactionnel que les médecins et les patients accomplissent est un travail qui se fait très fin, tour par tour, pour parvenir à une évaluation partagée des sensations douloureuses du patient, qui soit en même temps précise, efficace pour le contexte et adaptée au but institutionnel. Donc, ce n'est pas des évaluations qui se font comme ça en abstrait, c'est des évaluations qui sont faites pour chaque contexte médical de façon, appropriée. Et l'analyse que je vous présente se concentre sur les rencontres entre médecins et patients amputés au cours des visites pour la prescription des prothèses dans une clinique dans le nord de l'Italie. Donc, d'abord, pourquoi le thème de la douleur? Alors, le thème de la douleur et de son évaluation en contexte est devenu, dans les dernières années, mais je dirais presque décennies, deux ou trois décennies, central pour différentes raisons. D'une part, c'est parce que toute la médecine centrée sur les patients, qui s'est développée dans les dernières deux ou trois décennies, met bien sûr les patients au centre et donc aussi l'expérience du patient de la maladie dont la douleur fait partie. Et donc dans cet effort de valoriser l'expérience du patient, qui n'est pas une valorisation juste pour être gentil avec les patients, mais c'est une valorisation qui a le but de démontrer aussi que l'apport du patient est très important pour que les soins soient efficaces. Donc le discours sur la douleur rentre un peu dans ce cadre-là, l'apport du patient. Et d'autre part, la douleur est devenue centrale à cause du développement des maladies chroniques et de l'extension de l'espérance de vie qui s'accompagne souvent à de la souffrance. Donc on vit plus longtemps, mais on est plus malade et donc la souffrance aussi nous accompagne peut-être plus qu'avant. En même temps, on est plus prêt à dire, bon, on souffre, c'est tout, on envisage et on considère que c'est très important de garantir aux patients une bonne qualité de vie. Donc tout ça se tient, disons, ensemble. Donc, l'évaluation de la douleur est importante d'un point de vue biomédical pour faire des bons diagnostics, pour prescrire des thérapies adéquates, mais aussi, si on assume le point de vue du patient, pour pouvoir lui fournir un soutien et une aide dans la gestion de la maladie et de l'impact que celle-ci peut avoir sur sa qualité de vie, surtout sur sa quotidiennité. Le rôle du patient dans l'évaluation de la douleur est en plus incontournable parce qu'il s'agit là d'un aspect de la vie du patient auquel les médecins n'ont pas d'autre accès que la parole du patient. C'est le patient qui nous raconte, qui nous dit qu'est-ce qu'il prouve, qu'est-ce qu'il ressent, et il n'y a pas d'autre accès possible que la mise en parole de la part de la personne qui a l'expérience directe de la douleur. Qu'est-ce qui se passe chez les patients amputés? Alors, je vous propose quelques chiffres pour avoir un peu un aperçu des dimensions du phénomène. Le rapport Androkonos de 2015 a rapporté le fait qu'en Italie, là je parle de l'Italie, il y avait eu 3600 amputés des membres supérieurs, dont le 80% dû à des accidents au travail, et 11 600 membres inférieurs amputés, dont 60% dû à des complications liées au diabète. Donc on parle de chiffres assez importants. Les amputations sont plus fréquentes chez les hommes et leur incidence est majeure après les 40 ans. Et non seulement, mais les amputations traumatiques ainsi que chirurgicales causent une douleur chronique et persistante dans les 76% des amputés membres supérieurs et dans 70% des amputés membres inférieurs. Donc il s'agit là d'un thème assez important chez ce type de patients dont je vous montrerai les données, donc des patients amputés. Qu'est-ce qui se passe dans la pratique clinique par rapport à la mesuration de la douleur? Alors, il y a des moyens courants de mesurer la douleur, dont le plus diffusé est sûrement celui dit du numeral rating qu'on connaît tous. Je pense que tout le monde est arrivé d'aller chez le médecin qui lui demande de 0 à 10 combien t'as mal. Et nous, on doit répondre. Donc, ça, c'est la, disons, la façon plus courante de mesurer l'intensité, hein, parce que là on parle de l'intensité, donc c'est vraiment une approche quantitative à la douleur, et ça c'est assez répandu. Une autre forme de mesuration, c'est le verbal rating, qui est une quantification verbale par des catégories assez larges, par exemple absence de douleur, douleur modérée, intermédiaire ou douleur importante. Il y a aussi des modalités d'évaluation qualitative de la douleur. Et là, on recourt à une espèce de vocabulaire qui est fait sur la base des enregistrements des paroles les plus utilisées par les patients. Après, on fait une liste et on le repropose aux patients. Et entre ces modalités qualitatives, il y a le McGill Pain Questionnaire, Descriptive Differential Scales, Brief Pain Inventory. Et dans ces cas-là, donc, le patient se trouve à devoir choisir parmi une liste de paroles celle qui, à son avis, représente mieux le type de douleur qu'il est en train de ressentir ou qu'il ressent quand il est chez lui, chez elle, et que donc la douleur se manifeste. Donc ce sont les modalités plus courantes que les médecins utilisent, même si certaines études ont démontré qu'il y a de toute façon une préférence pour le numeral rating par rapport à d'autres modalités de mesuration. Il y a des auteurs qui se sont penchés un peu sur ces modalités courantes et ont mis en évidence des limites qui sont des limites communes un peu à toutes ces modalités de mesuration. La première limite qui a été mise en évidence, c'est la difficulté souvent pour les patients de comprendre l'échelle de mesure. Quand on te demande de 0 à 10 combien t'as mal, des fois on répond parce qu'on est vraiment orienté à la tâche de répondre, mais ce n'est pas évident de dire 4 ou 5. Ça, c'est un peu pour tous les questionnaires, quand on reçoit des questionnaires, mais bon, même si on a expérience de ça, le traduire en numéro, ce n'est pas évident. Donc, il peut y avoir cette difficulté-là. Et il y a aussi le problème d'une grande variabilité individuelle des interprétations et des valeurs qui sont associées aux termes, dans le cas du McGill questionnaire, par exemple, parce que là aussi, la figuration, disons, de la douleur n'est pas la même chez tous les patients. Et l'autre limite qui a été mise en évidence, c'est le fait qu'il peut y avoir une forte influence du médecin au moment où il pose la question. Et donc, disons, ces mesurations sont un peu faibles du point de vue de la confiance qu'on peut leur faire pour vraiment avoir un portrait de la situation du vécu du patient. À tout cela s'ajoute le fait que, bon, l'expérience de la douleur est une expérience assez complexe. Il y a d'ailleurs des auteurs comme Le Breton qui distingue entre douleur et souffrance. Quand on parle de douleur, on ne parle pas que d'une expérience sensorielle. On parle du vécu de cette expérience sensorielle. Donc, il y a des aspects qui sont des aspects psychologiques. Il y a des aspects qui sont des aspects relationnels, des aspects sociaux. Donc c'est une réalité assez complexe qui est très difficile donc à traduire dans les échelles qu'on a vues dans la diapositive précédente, que ce soit des numéros, que ce soit des termes isolés. Par exemple, il y a des études qui ont démontré que le fait qu'on présente aux patients des termes isolés, ça déjà c'est un gros limite. Hein. C'est plutôt par des images, par des phrases plus complètes que les patients pourraient réussir à représenter qu'est-ce qu'ils ressentent ou qu'est-ce qu'elles ressentent. Donc, là, je vous ai mis aussi, l'International Association for the Study of Pain a défini la douleur comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion. Donc, c'est quelque chose de plus compliqué que c'est tout simplement avoir des sensations. Et l'autre aspect, c'est qu'il y a quand même une dimension physiologique de ce phénomène, mais cette dimension physiologique ne peut pas être atteinte. Donc, on ne peut pas faire une radio. Et donc, ça reste... oui, on peut la comparer à la respiration ou à la digestion, mais du point de vue médical, on n'a pas un accès direct qui ne soit que celui... par la parole du patient. Donc, il y a une certaine spécificité même de ce phénomène. Considérer tout ça, c'est clair que la dimension de la communication de la douleur devient très importante. Elle est centrale parce qu'il n'y a pas d'autre accès que le récit ou la mise en parole du patient. Et donc, la communication joue un rôle fondamental pour la diagnostic, pour le traitement de la douleur, et donc du point de vue de la médecine et des médecins traitants, c'est impossible de ne pas se poser la question de comment soutenir, par exemple, un bon récit, comment faire en sorte que les patients produisent une bonne représentation de sa douleur, parce qu'après, c'est sur cette base qu'on devra intervenir. Plusieurs études se sont concentrées de toute façon sur la difficulté de communiquer l'expérience de la douleur, entre autres Lascara, tous les Bretons, Magie de Levinson, Scarry. Et souvent, par exemple, les patients peuvent utiliser des métaphores qui se réfèrent, par exemple, à des instruments, des aiguilles, des couteaux, ou ils peuvent utiliser des métaphores qui se réfèrent à des forces. J'ai une douleur sourde ou bien j'ai une douleur tranchante. Mais il y a une grande variabilité, non seulement du vécu sensoriel, parce que ce qui est une douleur intense pour une personne peut ne pas l'être pour l'autre, par exemple, mais aussi une grande variabilité dans la façon de verbaliser l'expérience. Et donc tout ça rend les choses assez compliquées. Là, je me suis concentrée sur les langages, mais il n'y a pas que les langages, on le verra aussi dans un des derniers exemples que je vous proposerai. La douleur peut être communiquée aussi de façon non-verbale, par des vocalisations, par exemple, par des postures qui changent subitement, par des regards, par des expressions faciales. Donc, il y a aussi une dimension multimodal dans la communication de la douleur. De tout ça, donc, découle la difficulté du thème, la difficulté d'aborder aussi la communication de cette expérience, qui est une expérience très personnelle et très intime, mais aussi l'importance de la contribution du patient. Il s'agit là d'un phénomène sur lequel que le patient a quelque chose à dire, presque. Et donc, pour avoir un résultat qui soit un résultat efficace, c'est important de voir le couple médecin-patient en tant que couple en train de travailler autour de cette sensation qui appartient qu'à l'un des deux, hein, et qui est en train de la traduire de façon efficace pour qu'il y ait une bonne pratique médicale et en même temps pour qu'il y ait une prise en charge du vécu du patient. L'objectif est en charge du couple Et l'interaction et les moyens à travers les couples peuvent accomplir cette tâche. Et donc, disons, je vois de là la centralité des études interactionnelles et des études en analyse de la conversation pour pouvoir décrire un peu comment ça se passe déjà et éventuellement comment ça pourrait se passer si on voulait, disons, améliorer le résultat. Donc, si on prend en considération les études de type interactionnel et en analyse conversationnelle, la pratique médicale en général est considérée une co-réalisation médecin-patient qui se produit dans le temps réel et qui se déploie progressivement à travers des séquences d'action. Donc, c'est une approche qui, en général, considère l'interaction comme une co-construction continue. Et donc, c'est juste qu'on prend cette approche et on va voir qu'est-ce qui se passe quand on parle de douleur, mais c'est une approche qui considère que la co-construction concerne tous les aspects de la pratique médicale et des pratiques institutionnelles en général. Donc, si on prend les études en analyse conversationnelle qui se sont occupées de la douleur, on principalement distinguer entre expression et description de la douleur. Les expressions de la douleur, ce seraient les réactions que le patient produit quand le médecin sollicite la sensation douloureuse. Ça peut être, comme j'ai déjà dit avant, des cris, ça peut être des postures qui changent, ça peut être des expressions faciales. Tandis que les descriptions sont la mise en parole, donc ça veut dire que quand il y a une description, le patient reste orienté au fait qu'il est en train de donner des informations par rapport à son vécu. Il ne le montre pas, il en parle. Alors là, je vous fais voir deux exemples. À gauche, il y a un exemple d'expression de la douleur. Les médecins posent la question à la ligne 1, « Vous avez des varices, n'est-ce pas ?» Il le fait en manipulant les pieds du patient. Et le patient produit un son qui a quelque chose comme ça, du genre, et donc réagit à la manipulation, et en même temps, il véhicule l'information que là, il a mal. C'est ce qui se passe là, est assez différent de ce qui se passe dans l'exemple à droite, où le médecin pose la question, vous avez mal ici, en tapotant. Là, c'est un exemple issu des données sur les amputés. Donc, il pose la question en tapotant le moignon du patient. Il y a une pause d'une seconde et le patient répond un petit peu, un petit peu. Donc, le patient traduit en parole ce qu'il ressent, il ne le montre pas. Ça, c'est la différence principale, disons, qui a été mise en valeur par les études en analyse de la conversation. Après, à travers l'expression, on peut obtenir certains résultats, faire certaines choses. À travers la description, on en fait d'autres. Et, disons, exprimer ou décrire la douleur peut dépendre aussi du moment de la visite, du but du patient. Donc, il y a plusieurs variables qui peuvent être en jeu. Mais, disons, à grande ligne, on peut y avoir ces deux moyens de véhiculer, on peut dire véhiculer l'expérience. Expérience de la douleur. D'autres études ont mis justement en lumière le fait que selon le moment de la visite, on peut recourir plus à des descriptions ou à des expressions. Par exemple, il y a une étude de Heath qui a montré comment à la fin d'une visite, souvent, quand on a clôturé une problématique, les patients produisent des expressions des symptômes, donc ils montrent leurs symptômes, et ça sert pour que le médecin, s'il a le temps et s'il est disponible, réouvre sur une autre problématique, et ça se passe souvent à la fin des visites. Un autre auteur, MacArthur, a montré comment pendant l'examen physique, s'il n'y a pas de questions sur la douleur, les patientes peuvent, par exemple, pousser un cri, et là, le médecin doit s'arrêter, et c'est une façon indirecte, disons, d'introduire le topic de la douleur, sans qu'il y ait une question de la part du médecin. Donc c'est plus facile pour pour les patients de produire une réaction à la stimulation plutôt que faire un discours comme quoi j'aurais un autre problème dont je voudrais vous parler, j'ai mal ici ou là. C'est plus direct de faire dans l'autre manière. Donc ça, on vient maintenant aux données que je veux vous présenter. Disons que là, sur la droite, je vous écris les principaux résultats de cette étude que j'ai fait avec Alessandra Fasulo de l'Université de Portsmouth. Et donc, il y a un résultat très général que je vous montrerai par les exemples. Le fait que la définition et l'évaluation de la douleur s'est fait progressivement, s'est fait à travers des questions et des réponses, donc à travers de toutes les paroles du médecin et du patient. Je vous montrerai aussi l'influence du contexte spécifique de cette clinique et de cette visite en particulier sur l'évaluation. Et aussi, en dernier, le rôle des ressources autres que le verbal. Et en particulier, je vais vous montrer un exemple qui montre une expression faciale qui est prise en compte après par par les médecins. Donc, ça, c'est le setting. C'est une clinique spécialisée dans la conception et production et application des prothèses. Les patients vont à la clinique souvent après avoir subi des interventions chirurgicales auprès d'autres hôpitaux, notamment auprès de leur lieu de résidence. Et la clinique est très renommée, non seulement au niveau national, mais au niveau international, non seulement pour l'assistance aux patients, mais aussi pour son activité de recherche innovative dans le cadre de la conception des prothèses. Donc l'attente des patients au moment où ils s'adressent à la clinique est complètement orientée à l'obtention d'une prothèse. Souvent, une prothèse dite fonctionnelle, ce sont les prothèses par exemple myoélectriques. Et si ce n'est pas possible, parce que bon, après les patients, quand ils vont, ils découvrent qu'il faut avoir certaines conditions pour placer ce type de prothèse, il y a les prothèses dites esthétiques qui servent tout simplement à cacher l'amputation, mais aussi à protéger le moignon des chocs ou d'autres situations qui pourraient, par exemple, se présenter au travail. Cette clinique est associée, fait partie de l'Institut pour l'assurance contre les accidents de travail. Donc, la plupart des patients qui y vont, c'est des patients qui ont subi des accidents au travail, qui est un problème énorme en Italie, avec des nombres incroyables. Donc là, ce que vous voyez dans la photo à droite, en bas, c'est vraiment la situation de la première visite. Le patient arrive et il rencontre une équipe de spécialistes. Cette équipe comprend des chirurgiens, des médecins rééducateurs, des techniciens de prothèses et des infirmières. Donc, c'est 1 à 6, 7 personnes. C'est pas facile pour les patients de gérer la situation. Et en plus, et ce qui est important, c'est le fait que les patients sont pratiquement toujours accompagnés. On a trouvé que 2 fois des patients qui sont arrivés tout seuls. Et c'est là aussi, c'est une démonstration aussi de l'enjeu pour les patients. Donc, c'est des patients souvent qui ont subi l'amputation il y a 2 ou 3 mois. Donc, c'est très récent. Ils arrivent en espérant de pouvoir obtenir une prothèse. Et donc, ils sont vraiment dans une situation où il y a eu récemment un gros changement de vie et la prothèse peut être un autre gros changement de vie. Donc, l'enjeu est très important, ce qui explique le fait qu'ils sont très souvent accompagnés. Ils ne viennent pas, ils viennent pas tout seuls. On a environ 24 heures d'enregistrement pour 77 patients, dont 38 avec amputation des membres supérieurs et 39 amputations des membres inférieurs. Et il y a 24 professionnels en tout dans les données. Et ils sont distribués, bien sûr, selon les journées. Et pour chaque journée, il y a un chirurgien, un médecin rééducateur, un ingénieur des prothèses et un technicien des prothèses. Et il y avait aussi quelques visites de follow-up, mais on ne les a pas utilisées pour l'analyse que je vous présente aujourd'hui. Ça, c'est la structure de la visite. C'est une structure qui ressemble à la structure de visite médicale en général, sauf qu'il n'y a pas de diagnostic pratiquement. On a une évaluation de l'état du moignon, mais il n'y a pas vraiment de diagnostic, parce que, ni la présentation du problème, parce que bon, le problème il est impliqué par le fait que le patient va à la clinique, donc c'est déjà inclus. Donc, les données que je vous montrerai, c'est des données qui se réfèrent à la phase de l'examen physique du moignon. Donc, après l'ouverture où il y a l'identification du patient, une récolte des informations, on fait une espèce d'anamnèse avec l'histoire médicale. Donc, par exemple, on se fait raconter l'accident. Souvent, c'est très important de savoir par quel instrument l'accident a eu lieu, quelles opérations ils ont subies, les conditions de santé générale, et après on passe à examiner le membre. Et c'est là qu'il y a la question sur la douleur. Donc c'est pendant l'examen, le médecin pose des questions, regarde, touche, et il pose la question sur la douleur. Donc de 28 questions qui introduisent le topic de la douleur par les médecins, 24 sont réalisées pendant l'examen. Donc pratiquement toutes les questions. Je vous passe ici un tableau pour vous donner une idée de format des questions. Il y a des questions qui sont des questions complètes. Par exemple, est-ce que vous avez mal au moignon? Ou bien, est-ce que vous avez mal au toucher? Donc là, c'est clair, la question elle-même. Le thème de la douleur sur la table, c'est une question parfaitement complète. Mais il peut y avoir des questions qui sont très elliptiques, par exemple, ici, en touchant. Donc là, c'est important de comprendre que les questions sont produites de façon multimodale la plupart des fois. Et que le verbal s'appuie sur la manipulation qui est en cours. Donc je vous montre ici, les 87% des questions donc sont posées pendant la manipulation du moignon, et c'est pour ça qu'elles peuvent se permettre d'être si elliptiques. Des fois, il y a le toucher, le médecin soulève le regard et le patient répond à propos de la douleur. Et la douleur n'a pas été mentionnée, donc c'est vraiment très, on pourrait dire, implicite la chose. Mais ça se passe à travers la sollicitation sensorielle. Et là, je vous ai mis un exemple. Je vous fais mal ici, demande le chirurgien. Pendant la pause, il touche et regarde. Ça, c'est tout, on voit là toutes les composantes de la question. Le verbal, la sollicitation tactile et le regard. Ce qui fait qu'après, le patient répond, produit la réponse. En ce qui concerne les conventions de transcription, il y a Gail Jefferson pour le verbal et Mondada pour les aspects multimodaux. Et là, on passe aux résultats principaux, dont ça se voit par tous les exemples, le fait que c'est une construction faite en couple médecin-patient, qui est progressive, qui a des ajustements vers certaines trajectoires. Ça, je vous le montrerai par les exemples. Mais aussi, la chose importante, c'est qu'en regardant toutes les questions sur la douleur de ce corpus, il y a une préférence contextuelle qui émerge très forte, qui est une minimisation de la douleur. Et on verra après, on pourra faire des hypothèses aussi sur les raisons qui amènent soit le médecin, soit le patient à aller dans cette direction. Donc, en premier lieu, qui va dans la direction de cette minimisation, il y a le fait qu'on n'a pratiquement pas d'expression de douleur dans le corpus, et pourtant il y a beaucoup de manipulations. Les patients sont touchés des fois longuement, pendant 10, minutes, 15 minutes. Il y a des cas où il y a des amputations multiples, donc il y a des visites très très longues. Et les patients sont sensoriellement très sollicités, mais il n'y a pas de réaction. Donc ils sont complètement orientés à donner des réponses qui verbalisent leur expérience. Ça, c'est un premier fait qui est assez important aussi parce que normalement, on associe l'expression à une douleur qu'on ne peut pas contrôler, à une douleur forte. Il y a une question d'intensité aussi qui est liée à la manière dont on procède. Est-ce qu'on exprime la douleur, on la montre ou on en parle? Quand on en parle, on considère que si on est capable d'en parler, il y a une médiation possible, donc ce n'est pas quelque chose de si fort. Donc le fait qu'il n'y ait pas d'expression, des réactions de douleur, déjà va vers la direction d'une certaine mitigation. Après, ce qu'on a constaté, c'est le fait que quand il y a absence de douleur, les patients procèdent de façon directe. Ils disent non. Donc ils produisent des réponses préférées, des réponses qui ne sont pas marquées. Quand il y a de la douleur, les réponses sont marquées. Ça, c'est un peu particulier parce que la demande sur la douleur crée une préférence pour qu'il y ait de la douleur. Parce que si un médecin me demande si j'ai mal, ça veut dire qu'il estime que c'est possible que j'ai mal. Donc, normalement, ça serait une situation qui crée une préférence pour la douleur. Donc là, je vais vous faire voir ça petit à petit par les exemples. Donc, on commence par l'absence de douleur qui est communiquée de façon non marquée. Là, c'est l'exemple. Alors, ici, le médecin rééducateur, à la ligne 2, demande au patient de produire un certain mouvement. Pousser vers moi, il le produit. Voilà. Et après, il pose la question à la ligne 5. Vous avez mal? Non. C'est un non très décidé, sans hésitation. Donc, on peut dire que c'est un non non marqué. Et donc, la réponse n'est pas une réponse problématique du point de vue du patient, évidemment. Le médecin rééducateur répète non, donc c'est sanctionné, c'est non, c'est bon. L'information a été acquise. Et ça, c'est la première preuve, disons, qu'il y a une préférence pour l'absence de douleur. Si on va voir les réponses qui admettent la présence de douleur, on voit qu'elles sont construites de façon un peu plus compliquée. Donc, elles ont des caractères marqués par rapport à ce qu'on a vu maintenant. Donc, la façon dont elles sont construites, disons, marquées, c'est qu'il y a des mitigations, par exemple, il y a des hésitations, il y a des remplacements lexicaux. Donc, il y a beaucoup plus de travail qui est fait autour de la réponse quand il y a effectivement de la douleur, qu'elle soit plus ou moins intense. Là, je vais vous montrer un exemple. C'est un patient qui a subi une amputation à la jambe. Le chirurgien lui demande s'il a mal tout en frappant le moignon. Et c'est une sollicitation assez fréquente parce que le médecin veut s'assurer de vérifier si le moignon pourrait supporter l'emplacement de la prothèse. Donc souvent ils font des mouvements assez forts, assez violents pour simuler le contact avec la prothèse. Et bon, là on voit que le patient répond à la ligne 4 un tout petit peu là. Et je vous montre l'exemple. Donc, ici vous avez mal, on entend quand il frappe, on entend le bruit, un tout petit peu là, et donc c'est une réponse un peu élaborée, parce que déjà il y a une pause d'une seconde, après, bon, la réponse, disons, conforme serait oui ou non, on l'a vu tout à l'heure, c'était une réponse conforme, est-ce que vous avez mal? Non. Est-ce que vous avez mal? Oui. Là c'est une réponse non conforme. Le fait que ça fasse mal, c'est impliqué par un peu, qui déjà diminue un peu l'intensité. Un petit peu, là. Et ce qui est intéressant, c'est que le chirurgien enchaîne en disant « peu cependant ». Donc il prend la trajectoire vers « bon, oui, il y a quelque chose, ça fait peut-être mal, mais peu cependant. Et la conclusion, oui, mais un tout petit peu, un tout petit peu. Donc, c'est vraiment une trajectoire qui va vers un peu mal, mais pas trop. Et là, on voit donc déjà un travail qui va dans la direction de la minimisation de la douleur. Et là, on voit un travail un peu différent qui est fait par l'introduction de la part du patient de descriptions alternatives au terme douleur. Et il s'agit là de l'introduction des sensations qui sont de toute façon des sensations, disons, problématiques. Hein. Le patient à la ligne 3 parle d'un grand fourmillement et la main est ankylosée. Hein. Mais la question était, douleur? Soulève le regard et l'autre répond comme ça. Donc, j'ai un grand fourmillement et la main est ankylosée. Je vais vous montrer l'exemple. Donc, il ne dit non, j'ai pas de douleur. Il ne dit pas oui, j'ai de la douleur. Il remplace la douleur avec d'autres sensations. Donc, à nouveau, c'est pas une réponse conforme parce que ça passe pas par un oui, ça passe pas pour un non. Et c'est l'introduction immédiate de sensations alternatives, qui sont des sensations probablement qui n'atteignent pas le seuil de la douleur, mais qui, d'une façon ou d'une autre, font part de cette grande famille des sensations, disons, négatives, des sensations problématiques. Hein. Ce qu'on trouve dans le corpus, c'est aussi le fait que la douleur, il n'y a pas une correspondance douleur-sensation précise. Des fois, elle fonctionne comme une famille des sensations hein, qui englobe, qui inclut des sensations qui sont toutes, disons, de nature négative, hein, mais avec des gravités différentes et des intensités différentes. Donc là, on a l'introduction du fourmillement et de l'ankylose, qui est faite par les patients. Mais je vous montre maintenant une substitution qui est faite par les médecins. C'est les médecins qui introduisent un terme alternatif à la douleur. Ici, on a une question tout au début de l'extrait qui a une question très elliptique. Ici, en serrant le bout de l'index du patient. Le patient, il dit, ça fait mal un peu. Donc, il admet avoir de la douleur. On a une demande de confirmation de la part du médecin. Mal? Oui. Donc, ici, on a des réponses conformes. On pourrait dire, bon, la réponse a été donnée, l'information a été acquise. Mais la séquence ne s'est clos pas ici. Et on a une réouverture. Et le même médecin continue en disant mal ou gêne. Donc il introduit une possible alternative. Et là, les patients se lancent l'occasion et il prend l'alternative à la douleur. Il prend la gêne. Donc ici, la trajectoire est un peu la même que tout à l'heure. Parce que c'est étonnant, parce qu'on a la question ici, on a l'admission de sensations douloureuses. Avec une petite hésitation, fait mal ou pas, donc c'est pas oui, hein. C'est pas un plein oui, mais c'est fait mal ou pas, ça fait mal un peu, donc il y a des mitigations dans le tour de parole. Et il y a une demande de confirmation. Mal, on a une confirmation, mais pas content. Il s'agit là d'un ingénieur de prothèse, il continue. Et il enchaîne en demandant, mais vous avez mal ou gêne? Et c'est là qu'après une pause, le patient admet, oui, une faible gêne. Donc on a vraiment une trajectoire comme quoi ça fait mal, oui, mal ou gêne, gêne, mais non seulement gêne, une faible gêne. Donc on a vraiment une trajectoire qui est assez claire, quoi. Et après, le patient, à la ligne 8, il ajoute pas trop, c'est supportable. Hein? Donc, pas trop, c'est supportable, ça veut dire, en tout cas, c'est pas très problématique. La trajectoire, on l'a vu. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est cette répartition que les patients peuvent faire entre modalités sémiotiques différentes. Entre autres, l'exemple que je vous montre, c'est entre le langage, le mouvement du corps et les expressions du visage. Pourquoi c'est intéressant cet aspect? C'est intéressant parce que s'il y a un problème qui est lié à ce contexte de manifestation de douleur, donc le patient hésite, et quand, même quand ils ont des sensations qui peuvent être associées à la douleur, ils mitigent la description de la douleur ou ils essayent de trouver des alternatives lexicales. Alors, on peut aussi aller voir si, par exemple, il y a une distribution comme quoi dans le verbal, on fait passer certaines choses, mais dans le non-verbal, il y en a d'autres qui passent. Donc, une espèce d'équilibre qui pourrait se faire. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que les patients ont fait des études en multimodalité et avant d'aller à la visite, ils sont là, ils savent exactement, d'accord? C'est juste quelque chose qui se passe, hein? Mais de toute façon, on est tous plus ou moins conscients que ce qui est du verbal est plus. Ben, le terme technique, c'est on record. Donc, c'est quelque chose qui est plus difficile aussi à rattraper, à modifier, hein? Et tout ce qui se passe sur le non-verbal, l'expression faciale et tout, c'est plus off-record. Donc, on peut toujours les nier si c'est problématique, par exemple. Hein? Donc, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se passe aussi dans certains cas. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce qui caractérise ces données, c'est le fait qu'on n'a pas de réaction. On n'a pas de réaction à la sollicitation tactile des médecins. Or, là, effectivement, il y a une petite réaction de la part d'un patient. Et c'est un patient qui dit de ne pas avoir de douleur. Après, le médecin continue à le solliciter et il y a quelque chose qui se passe du point de vue facial. Et cette expression faciale qui est reprise par les médecins fait si que la trajectoire change un petit peu. Quand je dis trajectoire, c'est la trajectoire qui va dans le but d'avoir une bonne description des sensations douloureuses. Donc, je vous montre l'exemple en sachant que c'est l'expression qui nous intéresse. J'ai essayé de la capturer dans la photo que vous voyez à droite en bas. C'est une expression comme quoi les patients, je vais essayer de la faire, les patients. Il ouvre des grands yeux, il fait comme ça, il fait comme ça. D'accord? Il ouvre les yeux et il secoue la tête. Donc c'est juste là à la fin. Il touche, il le regarde et c'est là que lui il produit la réponse, mais c'est une réponse non verbale. Après il parle, mais tout au début c'est comme ça, c'est vraiment un peu, il est vraiment un peu déconcerté, déconcerté. Donc, ce qu'on voit dans l'exemple, c'est que tout au début, il nie avoir mal. Parce que ici, c'est le médecin rééducateur, tout au début, ils lui disent, c'est-à-dire, vous avez mal si vous touchez, et elle fait ces gestes-là, en simulant la sollicitation qui pourrait lui faire mal. C'est-à-dire, vous avez mal si on le touche, elle fait comme ça, et lui, il répond, non, plus maintenant. Donc, c'est une réponse. Problématique. Il dit directement non, plus maintenant. Après, il y a une pause et le médecin sanctionne la réponse, non, ça ne fait pas mal. Donc, comme dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, ici aussi, l'information a été donnée. Hein? Donc, le patient, il a fait son devoir, et il est resté orienté à donner la réponse et il l'a donnée claire et nette. Le médecin rééducateur lui demande de montrer le moignon, donc il s'allonge vers le médecin rééducateur. Le médecin rééducateur prend la main et après, c'est le chirurgien qui intervient. Vous voyez à la ligne 13, il y a des pauses et pendant ces pauses, on a des mouvements que le chirurgien fait sur la main du patient. Il prend la main. saisit le moignon et frotte le moignon. Et c'est à ce moment-là, quand il frotte le moignon, qu'à la ligne 16, le patient soulève le sourcil et secoue la tête. Et ce qui est intéressant, c'est que à ce, disons, ce mouvement multimodal du patient, le chirurgien dit un peu de gêne. Donc, il traduit verbalement ce que le patient vient de faire. Et il demande confirmation, un peu de gêne. Ce qui est intéressant, c'est que donc, le patient initialement orienté vers le non, c'est un non verbal dans la première partie de l'exemple, sollicité, il réagit. Et cette réaction n'est pas laissée tomber par les médecins. Là, c'est intéressant parce qu'on voit aussi le fait qu'ils sont vraiment dans la tâche d'essayer d'avoir les informations les plus complètes possibles. Ils sont vraiment très collaboratifs. Ils s'ajustent vraiment l'un l'autre. Parce que là, le médecin, il aurait pu ignorer l'expression du patient et se contenter du fait qu'il avait dit non ou qu'il ne verbalise pas. Mais en fait, il veut cerner aussi des aspects qui sont des aspects plus subtils. Mais ce que je voulais aussi vous montrer, c'est le fait que néanmoins, on a une reprise de la même trajectoire qu'on a vue tout à l'heure dans les exemples précédents. Parce qu'à la ligne 19, après avoir verbalisé, donc vous avez de la gêne, de toute façon, le médecin recommence et reprend la trajectoire. Mais ça s'améliore, à votre avis. Donc oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais est-ce que c'est en train de s'améliorer? Et on va toujours dans la direction de l'amélioration. Donc là, c'était le dernier exemple que je voulais vous montrer. J'arrive aux conclusions. Il y a une conclusion très générale par laquelle on a vu que la définition de la douleur ainsi que des sensations qui lui sont apparentées, la gêne, l'ankylose, les fourmillements. Je ne vais pas vous montrer d'autres exemples, mais souvent on parle aussi d'électricité, une sensation d'électricité. On voit qu'elle se déploie progressivement dans l'interaction et que l'évaluation de la douleur est le résultat d'un ajustement intersubjectif entre les médecins et les patients, aussi en relation avec les types de douleurs et leur signification spécifique au contexte. On a vu aussi qu'il est intéressant d'aller voir comment les réponses sur la douleur ainsi que les questions, parce que les questions aussi, se distribuent sur différentes ressources sémiotiques. On a vu du côté du médecin l'utilisation du langage verbal, mais aussi de la stimulation tactile et beaucoup du regard aussi. Et du côté du médecin, le langage verbal, les expressions faciales, les gestes. Et le dernier point qui est, disons, un résultat de l'analyse de ces données en spécifique, c'est le fait qu'on a vu comment la définition de la douleur est atteinte par les buts qui sont spécifiques au contexte. Disons que dès l'analyse des données, ce qui émerge, c'est une valence négative de la douleur, probablement dû au fait que les patients estiment qu'en ayant un moignon douloureux, ça sera difficile d'avoir l'application d'une prothèse. Mais on a vu que les médecins vont dans la même direction. Ils aident les patients à évaluer leur douleur comme quelque chose qui soit est en train de se passer, ça s'améliore petit à petit, soit n'est pas très grave, soit n'est pas présente dans toutes les occasions. Donc il y a quand même une espèce d'ouverture positive, même quand la douleur est admise. Et donc, c'est important de vérifier que l'évaluation de la douleur est nécessairement influencée par ce que le médecin et les patients sont en train de faire. Ce n'est pas une évaluation en abstrait, ce n'est pas une évaluation qui vaut aujourd'hui pour toujours. Et donc, ça donne raison à des études qui ont été faites, même en utilisant des méthodes expérimentales, qui ont démontré que, par exemple, si on va en contexte de prescription de médicaments antidouloureux, il y a beaucoup, beaucoup de réactions qui sont très exagérées par les patients, et ça ne veut pas dire que ça correspond à des douleurs infiniment plus graves par rapport aux douleurs qu'on trouve chez les patients amputés. C'est juste que le but des patients et le but de la visite médicale est différent. Et donc, les patients s'ajustent en fonction aussi du but pratique qu'elle a.
Merci beaucoup.